Est-ce que vous connaissez l'effet papillon? Est-ce que vous connaissez Edward Lorenz? Je sais qu'il y a des physiciens ici qui connaissent Edward Lorenz. Alors Edward Lorenz, c'est un mathématicien météorologue, d'accord? Et en 1972, il a donné une conférence, donc à un colloque scientifique, et il l'a intitulé de la manière suivante. Il a dit « Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ?» En fait, il a mis en place ce qu'on appelle la théorie du chaos. Vous voyez ? Donc, ça, c'est peut-être un peu lointain dans vos études, hein, si vous avez passé le bac, peut-être que c'est dans vos vagues souvenirs. En fait, là, il a essayé de démontrer que des causes infimes peuvent produire des effets immenses et souvent imprévisible. Il a découvert que dans certains systèmes dynamiques, comme le climat, de toutes petites différences dans les conditions de départ peuvent entraîner des résultats complètement différents à long terme. Et Lorenz n'a pas utilisé ici l'image du papillon par hasard. Quand il a modélisé ces phénomènes sur un ordinateur, il a obtenu une forme étonnante en 3D, semblable aux deux ailes d'un papillon. Vous voyez ? C'est ce qu'il a essayé de démontrer. Et donc, il n'a pas pris le mot papillon pour rien. Ça a donné ce qu'on appelle l'attracteur de Lorenz. Donc, c'est cette figure que vous voyez ici. Hein, c'est une forme de papillon. Et ça a donné donc naissance à ce phénomène que vous connaissez probablement, l'effet papillon. Qui a déjà vu le film L'effet papillon ? Voilà, il y en a quelques-uns. Vous connaissez pas du tout l'effet papillon ? Ça vous dit rien ? Bon, c'est le bide. En tout cas, cette théorie, elle a été légèrement modifiée, adaptée, hein, c'était dans les années 70, donc vous voyez, on a quand même progressé depuis. Mais la métaphore est restée et on l'utilise encore pour décrire ce phénomène, et notamment chez les chrétiens dans le domaine spirituel. Et figurez-vous que c'est exactement ce qu'on va observer ce matin dans le texte qu'on va étudier. On va voir l'effet papillon et ce sont deux vérités que j'aimerais que vous reteniez, que je vais retenir pour moi, et ce sont ces deux vérités-là. Alors, elle est ici, voilà. La première vérité, c'est qu'une désobéissance mineure peut avoir des conséquences majeures, et la deuxième vérité, c'est un acte banal d'obéissance peut avoir des conséquences majeures. Voilà deux vérités qui sont quand même assez essentielles, qu'on va voir au travers d'un texte honnêtement énigmatique. Je ne sais pas si vous avez été curieux de lire Exode 4, verset 24. Là, j'ai étendu à 31, mais c'est concentré sur trois versets. Et honnêtement, c'est vraiment zarbi, énigmatique. Et j'ai jamais vu autant de commentaires différents sur si peu de versets. C'est simple, sur trois versets, j'ai lu au moins 15 pages de commentaires. Et chacun y va de son interprétation. Et donc, c'est vraiment compliqué. Et quand vous avez dû lire le texte la première fois, vous vous dites, waouh, attends, j'ai mal lu, il y a un truc bizarre dans ce texte. Juste deux citations de commentateurs, de biblistes. Voilà ce qu'il dit. Donc, c'est des spécialistes de l'Ancien Testament, Kaiser. Lui, il dit, c'est l'un des textes les plus difficiles du livre d'Exode. Et on a Michaeli, un autre spécialiste, qui lui dit, c'est l'un des textes les plus obscurs de toute la Bible. Donc vous voyez que quand on a attaqué cette série, les os de la Bible, eh bien, ça en fait partie. C'est-à-dire que ce sont les textes, quand on les lit à la première lecture, soit on est choqué, ça peut arriver, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça marche. Une fois sur deux, c'est incroyable. Voilà. En fait, on est dans une série qui s'appelle Les Os de la Bible, et vous avez probablement lu le livre de Josué, et on voit des cas d'extermination. Et c'était le dernier traitement que j'ai fait. On avait vu Ouza, hein, vous vous souvenez, dans les rois, et ensuite, on a vu Josué, donc le livre de Josué, on a essayé de trouver des raisons pourquoi Dieu commande l'extermination du peuple cananéite. Et on avait trouvé quand même 10 bonnes raisons. Et ce matin, on va faire le même exercice. Je n'ai pas 10 bonnes raisons, j'en ai 3. trois applications. Ça va être un peu plus court, j'espère. Et en tout cas, moi, je me suis bien amusé cette semaine. Mais quand je dis amusé, c'est un bon casse-tête, en fait. Hein. Quand on est un pasteur, quand on est face au texte et quand on a tant de variété au niveau des commentaires, on se dit « Waouh, qu'est-ce que je dois penser à la fin ?» Et on est presque tenté d'aller voir ChatGPT et lui dire « Tu peux pas me faire une synthèse ?» Ben, c'est pas ce que j'ai fait. C'est pas ce que j'ai fait. Et donc, du coup, je vous invite à prendre vos Bibles et on va lire plusieurs versions. Alors, je vous en ai sélectionné deux qui sont représentatives. Mais en fait, si vous lisez, et c'est là où on voit que les textes sont difficiles, c'est quand on n'a pas les mêmes récits. Quand vous allez d'une version à l'autre, vous dites, c'est bizarre, il y a des nuances là. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles et à lire avec moi le chapitre 4. Il est projeté ici dans la version Colombe. Ça, c'est la première, c'est celle que j'utilise habituellement. Elle est normalement assez bien traduite. Mais là, on voit qu'il y a des textes entre parenthèses. Donc, les parenthèses, c'est que c'est pas dans le texte et que c'est un ajout la plupart du temps. Et ici, il y a quand même deux ajouts. Trois. Mais bref, on regardera une version plus littérale juste après. Quand on lit ce texte, moi j'ai pris ma Bible et quand je parcours Genèse, j'arrive à Exode et puis quand je suis arrivé à Exode 4, je fais « Oh !» Pendant le voyage, dans un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel vint à sa rencontre et voulut le faire mourir. Séphora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et en toucha les pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. Qui a compris le texte? Vous pouvez venir ici nous l'expliquer, s'il vous plaît? Quand on lit ça comme ça, honnêtement, c'est chaud, quoi. Qu'est-ce que Moïse veut dire, là? Oui, c'est Moïse qui a écrit ce texte-là, dans l'Exode. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il y a plein de choses, des concepts qu'on ignore. Vous voyez, il y a un manque de contexte ici qui fait qu'on ne peut pas comprendre. C'est énigmatique, il faut le dire. Et en plus, il y a des ajouts de mots. Regardez une version plus littérale. Donc là, la NBS, très bien traduite, et la version Darby, ce sont des versions très littérales. Voilà ce qu'ils disent. Et vous allez voir que, tiens, c'est marrant, il y a des personnages qui disparaissent. Pendant le voyage au campement, le Seigneur le rencontra et chercha à le faire mourir. Il n'y a plus le mot Moïse. Séphora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et lui fit toucher ses pieds. Ça change. En disant, tu es pour moi un époux de sang. Alors il le laissa quand elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Est-ce que vous avez vu les nuances? Est-ce que vous avez trouvé le mot Moïse dans le texte? Ben, il n'y est pas. Ça, c'est la version littérale. Dans le texte original, Moïse n'est pas présent. Mais ça change un peu le sens et du coup, ça nous ouvre d'autres champs d'interprétation parce que à la place de Moïse, on pourrait y mettre, et ça c'est le contexte qui va le définir, d'autres personnages. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais j'aimerais donner trois affirmations à chaque fois et après je vais les étayer et puis on regardera trois applications de ce texte. D'accord ? C'est chaud, hein? Trois applications de ce texte. Comment on va pouvoir appliquer ce texte? Alors, tout de suite, hein, je vous rassure, il n'y aura pas, mesdames, ne faites pas de circoncision de vos enfants. C'est pas là l'application. D'accord? Je veux vous rassurer. Mais on va regarder ce premier point. C'est déjà que Dieu confronte la désobéissance de Moïse. Verset 24. Pendant le voyage au campement, le Seigneur le rencontra et chercha à le faire mourir. Alors, le titre du message, vous l'avez remarqué, c'est pourquoi Dieu a voulu tuer Moïse. Donc, moi, j'ai placé Moïse là-dedans. Et c'est vrai que j'avais pas toujours étudié à fond le texte. Peut-être que j'aurais peut-être changé d'avis. Est-ce que c'est Moïse ou est-ce que c'est son premier-né? On va voir qu'il y a des arguments dans les deux sens. Mais déjà, pour bien comprendre et bien saisir, il faut saisir le contexte. Et moi, je vous propose de faire un zoom arrière et on va revenir à la Genèse pour arriver jusqu'à Moïse. D'accord ? C'est important de faire ce petit voyage parce que vous allez voir qu'il y a des éléments, des alliances qui sont importantes et qui viennent finalement être, qui sont parachutées ici, mais c'est pas dans le texte. Et donc, il faut qu'on l'ait en arrière-plan pour mieux comprendre ces propos qui sont assez énigmatiques. Au tout départ, Dieu crée l'univers. L'univers, notre environnement, et il fait ça en 5 jours. Le 6e jour, il va créer les êtres humains. Il les place au milieu d'un jardin luxuriant. Et là, il va leur donner un commandement. Il leur dit, vous avez le droit de manger de tous les arbres du jardin. Donc là, c'est la totale, hein, la liberté absolue, pas complète. Un commandement, tu ne mangeras pas d'un arbre au milieu, donc l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, qui est placé au milieu du jardin. Celui-là, tant que tu touches pas. Mais par contre, tu peux prendre de tous les autres. Ok, qu'est-ce que l'homme a fait ? L'homme a choisi avec Ève de suivre les consignes du diable, du serpent. Et c'était quoi ces consignes ? Mais non, tu peux manger du fruit. Si tu en manges, tu verras, ça va être top. Tu verras, tu seras comme Dieu. Mais vraiment ? Si tu en prends, vas-y, goûte. Ah, c'est un peu ça. Ça va être top. Et bien, ils sont tombés dans le panneau. Et finalement, quand ils ont fait ça, ils ont voulu leur autonomie, autonomos. Vous voyez, auto, soi-même, nomos, c'est les règles, la loi. Donc c'est définir soi-même les règles. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont devenus autonomes. Et quand l'homme devient autonome, qu'est-ce qu'il fait ? Il perd déjà sa relation avec Dieu, il perd la communion qu'il a avec Dieu, et ensuite il va ressentir des émotions négatives. Qu'est-ce que Adam et Ève vont ressentir ? Eh bien, 3 émotions qui semblent assez évidentes. La peur, ils vont se cacher. La honte, ils vont se couvrir. Et puis, la culpabilité. Et ils vont tenter tous les moyens de contourner. Ça, c'est ce qu'on appelle le salut par les œuvres. Ils vont eux-mêmes trouver des solutions à ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils essayent de se cacher. Ça, c'est pas une bonne idée avec un Dieu omniscient et omniprésent. Parce qu'il sait exactement où vous êtes, même si vous fermez la lumière. D'accord ? Donc, ils font ça. Ils se cachent, bon ça, peine perdue. Et 2e chose, pour cacher leur nudité, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ramassent des feuilles de figuier, ou ils les cueillent plutôt. Ça c'est encore moins malin, mais ils les cueillent sur un figuier et ils se font un pagne. Sauf que si vous avez eu un figuier, vous savez qu'en quelques minutes, allez, on va dire quelques heures, la feuille de figuier, elle est bourrée de sève. Une feuille de figuier, moi on avait un figuier dans notre maison, quand les feuilles tombaient, 2 heures plus tard, la feuille, elle avait rétréci de 50%. 4 heures plus tard, de 50% encore. En fait, il ne reste plus rien à la fin de la journée. Et ils se font un pagne pour cacher leur sexe. Parce que c'est ça, ils cachent leur sexe avec quelque chose qui rétrécit. Peine perdue. Seconde mauvaise idée. Vous voyez, on ne peut pas gagner notre salut, on ne peut pas cacher notre honte devant Dieu. C'est peine perdue. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Dieu intervient. Et là, il va montrer un exemple qui va traverser toute la Bible. Retenez bien, qu'est-ce que fait Dieu ? Il intervient, il va déjà retirer Adam et Ève du jardin dans lequel ils sont. Ça, c'est une grâce. Alors, vous pourriez dire, mais c'est un jugement. Non, c'est une grâce. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si Dieu avait permis qu'ils mangent du fruit de l'arbre de la vie, parce qu'il y avait cet arbre, qu'est-ce qui serait passé ? Ils seraient restés éternellement dans cette condition. Donc Dieu les retire et il leur donne un autre plan de salut. Et c'est quoi ce plan de salut ? C'est encore Dieu qui le produit. Il va prendre un animal, il va le tuer, et il va enlever la peau et il va les couvrir. Et cette couverture, ça, c'est le signe du pardon. Et ce signe-là, donc on tue un animal, on prend la vie de quelqu'un pour couvrir la faute de quelqu'un d'autre. C'est fondamental parce que ça traverse toute la Bible jusqu'à Jésus. Et donc, vous voyez que c'est pas anodin. On a ça au tout début de l'histoire. Et donc, le temps avance. Adam et Ève vont avoir des enfants, qui vont avoir des enfants, qui vont faire des bêtises. Caïn et Abel, Noé, j'en passe. Et puis, on arrive au chapitre 11 où on découvre un personnage clé. C'est Abraham. Abraham, donc il s'appelait Abraham à l'époque, lui, il va conclure, enfin c'est Dieu qui conclut une alliance avec lui. Et il y a plusieurs promesses dans cette alliance. La première, c'est que il lui promet une descendance nombreuse, alors que son épouse est stérile. Elle est probablement ménopausée, très âgée. Et donc, il lui promet déjà une descendance, un fils, et il promet aussi que le peuple qui sera issu de sa descendance sera une bénédiction, pas simplement pour sa famille, mais pour l'ensemble des nations. Donc vous voyez, une bénédiction, mais tellement plus grande que sa propre petite famille. Et troisièmement, il lui promet un pays, un territoire sur lequel il va pouvoir s'émanciper. C'est Canaan. Mais cette alliance, elle comportait aussi des obligations. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on la lise. Voilà. Ici, au verset 10. « Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis dans toutes vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de la part d'un étranger qui n'est pas de ta descendance. » Verset 13. « On devra circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui est acquis avec ton argent. Ce sera dans votre chair la marque d'une alliance perpétuelle. » Et lisez bien. « Un mâle incirconcis qui n'aura pas subi la circoncision dans sa chair sera retranché du milieu de son peuple. Il aura rompu mon alliance. » Alors, vous voyez, là on a une série de promesses, une alliance que Dieu conclut ici. Qui va prendre du temps avant de se mettre en place? Et là, il faut revenir au message d'avant. Il va se passer 4 siècles, en fait. Il va falloir attendre 4 siècles avant que cette promesse ait lieu. Et quand vous prenez Jérémie 29:11, par exemple, comme une promesse, Dieu promet le bonheur et non le malheur, etc. Lisez bien le verset 10 avant. Parce que dans le verset 10, vous allez y découvrir quoi? 70 ans de déportation avant que la promesse se mette en place. Et là, c'est la même chose. Il fait ses promesses à Abraham, mais il faudra 4 siècles avant que Israël puisse prendre possession du territoire et que ses promesses se mettent en place. Alors, ça ne va pas prendre 4 siècles pour qu'il ait Isaac, mais le reste de ses promesses, elles vont arriver. Et donc, Abraham va donner à un fils, Isaac, qui donnera naissance à un autre fils, Jacob, qui enfantera à son tour 12 fils, dont Joseph. Ce dernier va sauver sa famille de la famine en faisant venir Jacob et ses 11 frères en Égypte. Et là, la tribu de Jacob va s'installer en Égypte en étant au service du Pharaon. Ce peuple va grandir, les pharaons vont se succéder et devenir de plus en plus durs avec les Juifs. Et là, on se retrouve 4 siècles plus tard. Le pharaon de l'époque commence à avoir peur. Il a peur quand il voit le nombre des Juifs qui grandit sans cesse. Et donc il va durcir, il va donner des corvées de plus en plus grandes et il va asservir ce peuple et tellement le faire souffrir que ce peuple crie à Dieu et dit « Mais libère-nous ». Et Dieu va envoyer un libérateur qui se nomme Moïse. Voilà. Et donc en 1525, Moïse va naître ici dans ce contexte. Moïse est sauvé des eaux, il est récupéré par la fille du Pharaon, et lui donc va recevoir une belle éducation parmi les princes d'Égypte. À 40 ans, Moïse se promène dans le pays et il est touché vraiment par la dureté dont on traite son peuple. Il n'avait pas conscience quand il était dans le palais, mais quand il est allé dans la rue, et là il a dit « Waouh !» Et donc il y a un moment donné, un Égyptien qui le prend en aparté et c'est la bagarre, il le tue et ça se sait. Et donc Moïse doit fuir. Donc Moïse fuit et là il va dans le désert. Il atterrit en Madian et il va rencontrer un homme qui s'appelle Jéthro. Il va lui proposer de garder ses moutons et c'est ce qu'il va faire Moïse pendant 40 années. Imaginez, 40 ans. Il a vécu 40 ans dans un palais au milieu des Égyptiens et il va vivre 40 ans dans le désert, au milieu des moutons. Mais il devait en avoir marre d'entendre ces moutons, de ramasser les crottes et de tondre, de prendre soin de ces brebis-là. Ça ne va pas être si marrant que ça. On sait qu'il s'est battu contre des lions parfois, qu'il a dû défendre son troupeau. En tout cas, il s'est trouvé isolé ici et c'est difficile de vivre seul. Il est tombé donc amoureux de Séphora, la fille de Jéthro. Il tombe amoureux de cette fille et il a deux enfants. Mais il se trouve que cette femme est madianite, c'est une païenne. Et donc les coutumes païennes ne sont pas hébreux. Donc il n'y a pas forcément de circoncision de leurs enfants. Mais finalement, Moïse, étant éloigné du peuple de Dieu, il se retrouve seul dans la campagne. Pas trop de besoin à ce niveau-là, vous voyez. Rendre un culte à Dieu alors qu'on est éloigné du peuple, c'était pas prioritaire. Mais il va se passer quelque chose. À un moment donné, Dieu vient interpeller Moïse. Il y a un buisson qui se met à brûler alors qu'il ne se consume pas. Et là, on se dit, waouh, ça c'est un miracle. Et Dieu va lui faire une promesse ici. Il va lui l'envoyer. Il lui dit, maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Alors Moïse, il dit, ah non, tu peux prendre qui tu veux, mais pas moi, tu fais pas partie de la team. Je sais pas parler, je suis mauvais, franchement, je suis la quiche de service, ne m'utilise pas. Et Dieu dit, non, t'as pas le choix mon gars, c'est moi qui t'ai choisi, c'est toi qui vas y aller. Tu sais pas parler, c'est pas grave, il y a ton frère qui va faire le boulot. Et il demande à Aaron de l'aider. Et donc, Moïse finit par obtempérer, et là, il va aller auprès de Pharaon. Et on arrive dans notre texte, en fait. On arrive au chapitre 4, et là, ils sont sur le chemin, et on arrive au verset 21. Donc, c'est juste les versets qui précèdent notre texte. Et c'est important. Vous allez comprendre pourquoi. Le Seigneur dit à Moïse, « Maintenant que tu retournes en Égypte, regarde tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. » Tu les feras devant le Pharaon, et moi je ferai en sorte qu'il s'entête et ne laissera pas partir le peuple. Tu diras au Pharaon, ainsi parle le Seigneur, Israël est mon fils, mon premier-né. Je t'ai dit, laisse partir mon fils pour qu'il me serve, et si tu refuses de le laisser partir, alors je vais tuer ton fils, ton premier-né. Moi je trouve que c'est quand même osé de la part de Dieu de demander à Moïse d'aller voir le plus grand monarque de ce temps-là, le plus grand dictateur quelque part. C'est un peu comme si au milieu du conflit israélo-palestinien, Dieu demandait à un juif de se présenter devant le responsable militaire du Hamas et lui dit « Écoute, tu laisses partir les otages israélites, sinon ton fils va mourir. » C'est exactement ce que Dieu demande à Moïse. C'est énorme. Mais il ne le laisse pas seul. Il lui donne une capacité de faire des miracles. Et donc, il lui fait une démonstration et il lui montre que ça marche. Et donc, il va devoir faire la même chose devant Pharaon. Ici, vous avez remarqué la fin, « Laisse partir mon fils ». Et là, il parle bien du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, ici, est considéré comme le premier-né de Dieu. C'est intéressant quand même. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Mais si tu refuses de laisser partir mon premier-né, alors moi je vais prendre ton premier-né. Okay ? Il y a une histoire de premier-né ici. Et vous l'avez compris, c'est la dixième plaie. C'est la plus terrible. Parce que ça va être une claque monumentale au Pharaon. Lui qui se prenait pour Dieu, là il va devoir capituler et voir qui est plus fort que lui. Et puis, c'est terrible pour les Égyptiens qui vont voir leur premier-né à cause de l'entêtement de leur chef, de leur leader. Vous voyez ? Et donc, ici, on a des parallèles qui sont assez extraordinaires. Et en fait, on voit qu'au travers du jugement terrible qu'il va y avoir sur Israël, pas sur Israël, sur l'Égypte, il y a aussi une manifestation de la grâce. Et comment elle se manifeste ? Eh bien, là, Dieu dit, si tu n'obéis pas, si tu ne laisses pas partir mon peuple, ce sont les premiers-nés qui vont mourir. Et c'est ce qui va se passer. Mais, quand Dieu annonce un jugement, il donne toujours un plan de secours. C'était quoi le plan de secours ? La Pâque. La Pâque juive, c'est quoi la première Pâque ? Celle qu'on va célébrer là, tout à l'heure, qui est un petit peu transformée. Mais la Pâque juive, Dieu avait dit, si vous voulez, je vais venir, l'ange de l'Éternel va descendre et il passera au-dessus de vos maisons. S'il n'y a pas du sang d'un agneau sur les poteaux et le linteau de vos portes d'entrée de maison, alors dans chaque maison qui n'aura pas mis ce signe-là, l'ange passe et le premier-né de chaque famille va mourir. C'était pour les Égyptiens et aussi pour les Israélites. Donc c'était un acte de foi, un truc bizarre. Tu mets du sang sur ton et t'es protégé. C'est pas de la superstition ici, parce que c'est Dieu qui parle. Et donc, il demande une chose, si tu le fais, t'es épargné. Ton premier-né sera épargné. Si tu le fais pas, tu meurs. Enfin, tes enfants, ton premier-né va mourir. Et c'est ce qui va se passer pour Pharaon. Il va être liquéfié, le pauvre Pharaon, pas le pauvre. Il va avoir son fils mourir, et ça va être terrible. Et il y en a bien d'autres qui vont le faire. Là, on voit bien sûr un parallèle avec Jésus, hein, pour nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, celui qui est couvert par le sang de Jésus, qui se place sous la tutelle de Jésus, sous la croix, sous la mort à la croix, il est protégé de la colère de Dieu, du jugement de Dieu. Et on verra ces textes. Mais à un moment donné, il y a un jugement. Et quelque part ici, le jugement des premiers-nés, c'est aussi quelque part une petite fenêtre qui s'ouvre sur le jugement final. Voilà ce qui va se passer à un moment donné. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Alors, on revient à nos moutons, si on peut dire ça comme ça. Maintenant que vous avez un petit peu plus de contexte, on relit ce texte et moi je vous pose la question, qui Dieu a voulu faire mourir ? Pendant le voyage au campement, le Seigneur le rencontra et chercha à le faire mourir. Il y a plusieurs possibilités ici. La plus évidente, Moïse. Mais il y a aussi une autre possibilité, et on verra juste après, le premier-né. Le premier-né. C'est un effet miroir avec ce qu'il va demander aux Égyptiens. Vous voyez ? Premièrement, Moïse. C'est la plupart des commentateurs qui vont dans cette direction. La grande majorité des commentateurs pensent qu'ici, il vient et qu'il menace quelque part, il attaque Moïse. Et l'argument, c'est qu'il met en avant la responsabilité. C'est en tant que chef de famille, en tant que futur chef d'Israël, que Moïse est attaqué par Dieu. Et Dieu utilise un moyen pour le contraindre à obéir, à mettre sa vie en règle, à rentrer pleinement dans l'Alliance, parce que ce n'est pas encore le cas. Et donc, cette attaque, c'est pas un jugement radical et définitif. C'est pas le jugement dernier ici. Mais c'est plutôt un geste pédagogique. Parce que si Dieu, honnêtement, si Dieu voulait tuer Moïse, est-ce que vous pensez que ça serait pas plus rapide? Quand Dieu veut la fin d'un être humain, il fait comme ça, hein. Il a même pas besoin de claquer des doigts, hein. Il fait, hop, tic, t'es mort. Infarctus foudroyant. Pouf! C'est pas ce qui se passe ici. Dieu attaque Moïse. Donc, vous voyez, il y a du temps là qui se passe. On ne sait pas vraiment ce que c'est, en fait, cette attaque. Est-ce que Moïse est tombé gravement malade? La plupart du temps, les commentateurs vont dans ce sens. Il a probablement eu une lèpre ou quelque chose de terrible qui était condamnant, quelque part. Mais c'est pas immédiat, vous voyez? Et donc, quelque part, il va lui laisser le temps de réfléchir et de mettre sa vie en règle. Donc, Dieu offre toujours un plan de secours. Encore une fois, jugement, mais il y a un plan de secours. En fait, est-ce que ça vous rappelle pas une autre bagarre, une bataille qui a eu lieu? Jacob, est-ce que vous pensez que l'ange de l'Éternel aurait pu pulvériser Jacob comme ça? En fait, c'est pédagogique. Quand Dieu demande à Adam, où es-tu? Est-ce que vous pensez que Dieu sait où est Adam? Non mais vraiment. Oui, il y a des figures de rhétorique. Et là, c'est la même chose. Donc, bien sûr que si Dieu avait voulu tuer Jacob, il l'aurait fait. Donc, il y a une pédagogie. Jacob va être blessé à la hanche. Il va garder une marque toute sa vie. Un rappel, quelque part, important. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est la même chose. C'est la même chose. Dieu attaque Moïse, pour une raison pédagogique. Il veut qu'il rentre dans l'Alliance, et comme il ne l'a pas fait, eh ben il va le contraindre quelque part. Pourquoi ? Ben parce que tu es un modèle, Moïse. Tu te rends compte, Moïse, que tu vas demander à ces peuples d'obéir aux exigences du Créateur, alors que toi-même, tu n'es pas en règle avec moi. Vous imaginez ça? Ça se fait pas. Et donc, il va exiger des chefs autant qu'il va exiger des autres. C'est normal. Donc ça, c'est la première interprétation. La deuxième lecture possible, eh bien, elle, alors ça, ça va bien avec la suite du récit, ce que je viens de dire. Hein, parce qu'on voit que Moïse va effectivement être rétabli et qu'il va faire tout ce qui était prévu. Mais là, il y a un point de blocage. Hein. Là, pour le moment, c'est stand-by, Moïse, t'arrêtes. Il y a une petite étape là, tu dois y passer. Donc il y a ce stand-by et on voit que la suite du récit va donner raison à cette interprétation. Mais la deuxième lecture, elle va mieux avec le début du texte. Imaginons maintenant que ce soit Gershom, que Dieu vient et s'attaque au premier-né. Ça a tout son sens. Ça a tout son sens. Pourquoi ? Parce que c'est exactement ce qu'il va demander et il va faire avec les Israélites. Vous voyez ? En fait, Dieu frappe le premier-né de Moïse parce qu'il ne répond pas aux exigences divines de l'alliance conclue avant avec Abraham. Il touche à la famille du leader d'Israël comme il le fera pour le leader égyptien. Dieu est juste en fait. Il applique les mêmes règles pour tout le monde. Celles qui sont bonnes pour son peuple et aussi pour les Égyptiens. Dieu va exiger de Moïse ce qu'il exigera des Égyptiens. Et donc, en tant que chef, Moïse devait montrer l'exemple et il fallait qu'il corrige son manquement. Il devait respecter les termes de l'Alliance sous peine d'en être écarté. Il devait obéir avec foi, même si cela allait à l'encontre de la culture madianite, même si cela répugnait son épouse et allait créer des tensions dans son couple. Et c'est ce qu'on va voir maintenant dans ce deuxième point. Dieu valide le geste de Séphora. Verset 25. Séphora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et lui fit toucher ses pieds en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Alors il le laissa quand elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. Si vous avez compris le texte là, vous êtes très très fort. Qu'est-ce que ça veut dire « époux de sang »? Toucher ses pieds. Pourquoi toucher ses pieds? Il y en a qui disent que le fait de toucher ses pieds, c'est un euphémisme pour dire qu'il a touché son sexe. Interprétation. Certains penchent pour dire que l'époux de sang est un renouvellement de l'alliance avec son mari. Alors, qu'est-ce qu'on peut affirmer? Ben, moi, j'affirme que Dieu valide le geste de Séphora. Point barre, je ne peux pas dire grand-chose d'autre. Parce que c'est ce qu'on voit. Il le valide. Mais on comprend pas. On comprend pas. En fait, on comprend qu'il valide le geste parce qu'il le laisse. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il était, il a attaqué Moïse ou le fils Gershom, mais il va le laisser. Donc ça veut dire que l'acte de Séphora a été validé, accepté, agréé par Dieu. Ce sacrifice, quelque part, souvenez-vous de Caïn et Abel, elle a obéi par la foi à quelque chose qui avait été commandé avant. Caïn et Abel, relisez Hébreux 11, vous vous êtes probablement posé la question, pourquoi Dieu accepte, agrée le sacrifice d'Abel et pas celui de Caïn? C'est exactement la même situation ici. Pourquoi? Hébreux 11 le dit, parce que l'un l'a fait par la foi, et l'autre a fait sa sauce, autonomie. Il a défini lui-même les règles. Caïn a dit, ben moi, je trouve que c'est bien d'offrir des fruits et des légumes. C'est ce que vous vous êtes dit la première fois que vous avez lu le texte. Ben quoi, il n'y a rien de mal. Ah oui, mais ce n'est pas ce que Dieu demandait. Ce n'est pas comme ça qu'on m'adore. Ce n'est pas comme ça qu'on s'approche de moi. Moi, je demande un sacrifice. Je veux que le sang coule, pour que ça te coûte, pour que tu comprennes que là, il y a une rupture de relation entre toi. On n'a pas en communion, en fait. Pour qu'on soit en communion l'un avec l'autre, il faut qu'il y ait la mort d'un innocent. Il faut que tu puisses être purifié dans ton acte. Et vous voyez, c'est ce qui se passe ici, quelque part. En fait, dans le Moyen-Orient, la circoncision, elle était pratiquée dans plusieurs cultures. Les Égyptiens, par exemple, la pratiquaient, mais ils ne coupaient qu'une partie du prépuce. Et on va voir, si vous lisez Jérémie, dans l'Ancien Testament, il se moque justement de ces gens qui se disent circoncis, mais qui n'ont qu'un petit bout de chair qui a été coupé. Il se peut que Moïse et Séphora n'aient pas circoncis ni leur premier-né, ni l'autre d'ailleurs, mais qu'ils les circoncis à moitié. Vous voyez? Et c'est, à mon avis, ici le cœur du problème. Est-ce que vous vous souvenez des clauses de l'alliance avec Abraham? Quelles étaient les conséquences de l'incirconcision? Vous vous souvenez de ce texte? Est-ce que je suis obligé de le remettre? Le mâle incirconcis, celui qui ne sera pas circoncis, celui-là sera retranché de son peuple. Il a rompu mon alliance. En fait, pour Dieu, la circoncision du peuple juif était un signe important. C'est le signe d'appartenance au Dieu d'Abraham. Un acte de foi visible qui manifestait le désir de suivre Dieu. Ne pas se faire circoncire était une forme de rébellion, une manière de redéfinir les règles, de redevenir autonome. Vous voyez? Alors là, quand j'ai lu ce texte, cette situation, moi je m'imagine assez bien Séphora en train de convaincre Moïse de ne pas circoncire leur fils. Chérie, on est sauvé par la foi. C'est pas Abraham qui a dit ça? On est sauvé par la foi, n'est-ce pas? Ben oui, ma chérie. C'est donc pas un petit bout de chair qui va changer quoi que ce soit. Vous voyez, elle a probablement essayé de convaincre son mari que finalement, c'était qu'un petit bout de chair. Et vous savez que les chrétiens, aujourd'hui, j'en observe en tout cas, raisonnent un peu de la même manière sur plein d'autres sujets. Le baptême, par exemple. Ils se disent, mais on est sauvé par la foi en Jésus, n'est-ce pas? C'est pas une petite trempette dans de l'eau qui va changer quoi que ce soit. Ou bien pour le mariage, ils disent, on s'aime, on est chrétien, on aime Jésus, c'est pas un petit bout de papier qui va changer quoi que ce soit. Ou bien pour l'église, ils disent, on aime les gens, on vient à l'église, c'est pas le fait d'être membre et de signer un petit bout de papier qui va changer quoi que ce soit. On est dans la même rhétorique, les amis. Si vous hésitez aujourd'hui à devenir membre ou à vous faire baptiser, vous êtes dans la même situation que Moïse et Séphora avec les enfants. Est-ce que tu vas manifester le signe de ton alliance avec Dieu par un signe visible? C'est ça en fait que Dieu demande ici. Si Moïse ou Séphora n'avaient rien fait, qu'est-ce qui se passait? Ils ne pouvaient plus être utilisés par Dieu parce qu'ils devenaient des vases impurs et Dieu ne pouvait plus les utiliser. Et qu'est-ce qui va se passer ici? On a quelque chose de bizarre. Moïse est absent de l'équation. Vous avez remarqué? C'est une païenne, une femme madianite qui va faire la circoncision. Alors, on se dit, mais pourquoi est-ce que Moïse, qui avait été potentiellement attaqué, est-ce qu'il était si faible qu'il ne pouvait plus réagir? Peut-être qu'il était paralysé, hein. C'était peut-être ça, AVC. Dieu, il a donné un AVC à Moïse et il lui laissait quelques jours encore pour mettre sa vie en règle. Ou bien, donc ça c'est une possibilité, Moïse il pouvait pas réagir, ou bien dans son agonie, Moïse a dit à sa femme, je sais ce qu'il faut que tu fasses, va circoncire notre fils premier-né. C'est ce que Dieu exigeait dans la loi et je l'ai négligé. Je l'ai négligé, fais-le à ma place, s'il te plaît, je peux plus le faire. Voyez. Peut-être qu'il s'est passé ça. On ne sait pas en fait. Ou peut-être qu'elle a pris l'initiative de le faire. Peut-être que Moïse avait honte. Peut-être qu'il n'avait pas le cran pour le faire lui-même. Et donc, comme les femmes sont un peu plus entreprenantes, eh bien, c'est elle qui a pris les choses en main. On dit, ok, on est en train de faire périr notre famille parce que tu es négligent. Alors moi, je vais prendre les choses en main. Et voyez, ça pourrait aussi être ça. Donc il y a plein de scénarios possibles ici. En tout cas, ce que je retiens, c'est que l'acte d'obéissance de Séphora est remarquable. Et c'est pas grand-chose, c'est juste un petit bout. Vous voyez? Un petit acte d'obéissance, mais qui va avoir de grandes conséquences. On est en plein dans l'effet papillon ici. Petite obéissance, grande conséquence, parce que c'est tout le peuple d'Israël qui va en bénéficier. Petite désobéissance de Moïse, petit bout de prépuce, non coupé, grande conséquence. Pour toute ta famille et ensuite pour la bénédiction que tu devais apporter. Tu ne le feras plus. Vous voyez, on est constamment dans ces deux éléments. Obéissance petite, minime, ou un acte d'obéissance petit, mais les deux ont un impact énorme dans la vie des autres. Alors, allez, je vais à l'essentiel, mais vous avez dû remarquer, on a deux fois ce mot en deux versets. Tu es pour moi un époux de sang. Alors, il le laissa quand elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Ici, ça peut être perçu de manière positive ou négative. Hein, et je vous lis juste un commentaire parce que il faut aller à l'essentiel. Mais alors là, je peux vous dire que les interprétations s'affusent dans tous les sens. Époux de sang, qu'est-ce que ça veut dire? Tim Chester, dans son commentaire sur l'Exode, dit « Nous ignorons si les paroles de Séphora ont été dites avec amour ou colère. Okay » Au verset 25, elle s'exprime peut-être avec amour. « Tu es d'abord devenu mon mari par notre mariage. Maintenant, tu échappes à la mort et je te reçois à nouveau comme mon mari, mais cette fois au travers du sang. » Mais on peut aussi penser qu'elle s'exprime avec colère. J'ai été contrainte de circoncire mon enfant. Notre union est donc entachée de sang. Le verbe toucher dans le texte original peut tout aussi bien être traduit par le verbe jeter, ce qui suggère une certaine virulence, à moins qu'elle ne se soit dépêchée de le toucher, car la mort arrivait. Dans Exode 18:2, il est dit que Moïse avait renvoyé Séphora chez elle. Leur mariage avait-il connu une déchirure suite à cet épisode? Et c'est une fin de la citation. En fait, en tant que païenne, madianite, et surtout en tant que maman, elle trouvait probablement ce geste barbare, répugnant. Et moi, j'ai pas du tout de difficulté à imaginer Séphora implorer son mari de ne pas circoncire ses enfants. Mais en tant qu'homme, j'ai pas de mal non plus à imaginer Moïse qui s'écrase auprès de son épouse parce qu'il veut la paix dans son foyer. Et on voit ici les deux tendances de l'homme et de la femme. La femme prend les choses en main. Hein? Et oui, et des fois, bon, tu te bouges pas, je vais faire les choses à ta place. Et les hommes, on laisse faire, c'est des mollasses, il faut le dire. Adam, il a reçu le commandement, Adam, c'est pas Ève, hein? C'est Adam qui a reçu le commandement, tu as le droit de manger du fruit de cet arbre. Ève, elle n'était même pas créée encore. Relisez le chapitre 2, vous allez voir. Ève n'était pas là. Donc, comment elle a su? Ah mais non, non, on a le droit. Oui, t'as raison, le diable. Alors, comment il lui a transmis? Peut-être qu'il a fait un petit détournement, Adam. Mais voyez, cette tendance de laisser faire, c'est vraiment masculin. Vraiment masculin. Et la tendance de prendre les choses en main, c'est vraiment féminin aussi, je pense. Je vais m'arrêter là avant de recevoir des chamallows. En tout cas, moi, je souligne, mesdames, le courage de cette femme. Elle est courageuse. Parce que franchement, ça donne pas envie. Hein. Je sais pas si on vous dit, tiens, demain, Céline, tu peux enlever le prépuce de ton fils avec un bout de silex. Allez, je t'autorise une lame de rasoir. C'est franchement repoussant. Mais elle le fait. Elle le fait. Quand il faut ramasser le vomi à la maison, c'est ma femme, c'est pas moi. Moi, je peux pas. Mais elle prend sur elle. Et il y arrive. Moi, si je le fais, il y a deux vomis. En fait, il y a une petite tendance ici. Je trouve ça remarquable, mesdames, écoutez bien, parce que ça vous concerne. Vous êtes très émotionnels. C'est une réalité. Je n'invente rien. J'ai trois femmes à la maison. Je peux vous dire que ça pleure plus facilement que les gars. Mais ici, elle dépasse le stade de ses émotions qui l'aurait conduit à l'incirconcision. C'est clair. Elle dépasse ce stade et elle va obéir à Dieu. Même si c'est sous la contrainte, les amis, même si c'est répugnant, elle le fait. Vous voyez ? Et je trouve ça très honorable de sa part. Et moi, je vous encourage, mesdames, à prendre modèle sur Séphora. Alors, c'est peut-être une païenne, mais ici, elle obéit à Dieu. Okay ? Elle prend sur elle. Elle laisse ses émotions de côté et elle fait ce qu'elle doit faire. Je fais le job. Je sais que c'est ce que Dieu veut pour ma famille, pour sauver ma famille. Et elle va sauver sa famille. Vous voyez l'impact de ce petit geste. Elle sauve sa famille, ou en tout cas Moïse ou le premier-né. C'est remarquable. Troisième point, c'est que Dieu rétablit Moïse dans son service. Ça paraît assez évident, mais on voit ici tout le fruit. Donc, il y a bagarre. Moïse, il confronte le péché. Ensuite, on découvre le péché. Elle, donc son épouse Séphora, intervient Et là, on voit le rétablissement de Moïse et il va lui continuer maintenant à le mettre au service. Verset 27, l'Éternel dit à Aaron, « Va dans le désert au-devant de Moïse. » Il partit, rencontra Moïse à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné d'opérer. Moïse et Aaron s'en allèrent et rassemblèrent tous les anciens des Israélites. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il opéra les signes aux yeux du peuple. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les Israélites, qu'il avait vu leur misère, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Et là, on dit Amen, Alléluia, parce que c'est une réponse, quelque part, et une bénédiction. Dieu va utiliser Moïse de manière extraordinaire, et il va sauver des millions de personnes. Et donc, on voit, au travers de ce récit, que Moïse est rétabli, comme Dieu l'avait annoncé. Il a été brutalement, mais temporairement, interrompu. En fait, Dieu testait son serviteur. Il fallait que Moïse passe par cette épreuve douloureuse avant de devenir un leader responsable et respecté. C'est une sorte de baptême du feu. Tu en as parlé tout à l'heure, Marcel. Une sorte de baptême du feu, une épreuve douloureuse, mais nécessaire. Il semble que Moïse ait continué seul avec son frère Aaron. Séphora est resté avec ses enfants le temps de la guérison, puis ils ont rejoint Jéthro, son père. Quand Moïse rentrera d'Égypte, accompagné de l'ensemble du peuple, la famille va de nouveau être réunie. En tout cas, j'arrête ici parce qu'il faut arriver à la conclusion. Mais voyez qu'on voit des choses essentielles ici. Il y a des choses mystérieuses dans ce texte, mais on voit des belles choses. Et je voudrais retenir ces choses. Et la première application que j'aimerais faire, donc bien sûr, c'est pas de circoncire vos premiers-nés, hein, vous oubliez ça. Mais je voudrais juste vous dire que Dieu peut vous utiliser si vous vous repentez de vos péchés. Si vous êtes chrétien, Dieu veut vous utiliser. Il vous a donné des dons, des capacités, et peut-être qu'il y a des points de blocage. Ici, il y avait une petite désobéissance qui était dans la vie de Moïse et qui était un point de blocage, une interruption. Et Dieu dit stop. Et peut-être que vous en êtes là. Peut-être que dans votre vie, vous savez, vous le savez. Nous, on ne le sait pas, on l'ignore. Mais peut-être que vous voyez un point de blocage et peut-être que ça peut être effectivement une désobéissance que vous n'avez pas réglée. Un endroit où Dieu vous attend. Et tant que vous ne l'avez pas fait, vous allez rester comme Moïse, un peu embarrassé. Un Moïse ou Gershom, on ne sait pas, mais Dieu peut même utiliser la maladie pour ça, pour nous faire réfléchir. Quand on est alité, on a le temps de gamberger. Hein. Il peut aussi utiliser ça. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que chaque fois qu'on est malade, c'est un jugement et que Dieu nous attend dans ce domaine-là. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. Je vous lis ici 2 Timothée 2, verset 20. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des objets d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois. Il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont pour un usage noble, les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie en se séparant de ces derniers, il sera un objet pour un usage noble, consacré, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. C'est exactement ce qu'a fait Moïse ici. Purification. Confession. Changement. Rétablissement. C'est ça l'ordre. Donc peut-être qu'il peut y avoir un blocage. Vous savez que dans la Bible, et même dans l'histoire, tous les réveils spirituels commencent par la repentance. Tous, sans exception. Le plus grand réveil de l'histoire, vous savez où il a eu lieu ? Au milieu des païens ignobles, les Ninivites. Ils empilaient les têtes de gens sur des pics comme ça, des pyramides de têtes. Voilà. Ce peuple-là, quand Jonas est allé les voir, ils ont pris le sac et la cendre, en repentance. Et l'ensemble du peuple s'est converti. Énorme ! En repentance. La plupart des réveils ont lieu et passent par la repentance. Alors je vous pose la question, est-ce que vous avez besoin de circoncire votre cœur ce matin, pas votre chair, votre cœur, de vous reconsacrer à Dieu, d'abandonner certaines mauvaises habitudes ? Avez-vous besoin de circoncire certaines mauvaises habitudes, de trancher dans le lard du péché ? D'être radical, de laisser votre téléphone pendant un certain temps, de reprendre votre Bible à la place. Et là, j'ai pris un exemple, mais on pourrait en prendre des dizaines. Est-ce que vous avez besoin de trancher ? Circoncire, c'est ça, hein ? On devient radical pour se reconsacrer à Dieu. Deuxième application, Dieu utilise le plus petit d'entre nous pour faire une différence. On a un bel exemple ici avec Séphora qui est assez insignifiante quand on regarde la vie de Moïse. On parle de Moïse, il a fait des exploits, des miracles extraordinaires. Séphora, on en parle peu, mais si Séphora n'avait pas fait ce petit acte d'obéissance, Moïse n'aurait pas eu ce ministère. Derrière tout grand homme de Dieu se cache une femme discrète mais efficace. Ça vient pas de moi. Alors, je sais pas comment vous vous sentez ce matin. Si vous vous sentez tout petit, peut-être sur votre siège là. Moi, je me sens tout petit dans l'église. J'ai rien à apporter. J'ai pas vraiment de don. Alors, Dieu peut peut-être commencer à t'utiliser. C'est une bonne nouvelle pour toi. Des fois, c'est pas grand-chose. Un sourire, une prière pour quelqu'un, un geste d'amour, un témoignage. Mais Dieu peut faire changer des choses. Pensez à l'effet papillon. Petite chose peut faire bouger des lignes. Et si on vous explique les conversions, si vous écoutez bien les récits de conversion, souvent c'est des petits détails. Ah mais oui, mais une fois je suis allé dans l'église, ils ont été trop gentils. Vous savez, la dernière dame que j'ai enterrée, elle s'est convertie grâce au témoignage de l'église. Parce que Marcos, parce que Ruben, parce que plusieurs sont venus, Priscilla bien sûr, Maxwell et d'autres qui travaillent à l'hôpital sont venus la voir. Elle voulait voir personne sauf des gens de l'église, vous imaginez ? Petite chose, petite visite, petite prière, petite parole d'encouragement. Et ça fait changer, ça fait basculer les gens dans l'éternité. Et troisième champ d'application, Dieu utilise les épreuves douloureuses pour nous attirer à lui et nous avertir du jugement final. Et là, ça se tweet, donc filme, écoute, prenez en photo. C'est une citation d'un théologien. Je ne sais pas où il est, j'ai retenu l'essentiel. Alors, c'était au Canada, j'ai entendu ça dans une conférence, c'est un frère qui l'a dit et j'ai repris ça à ma sauce. Je trouve que ça sonne bien, mais l'idée, elle est là. Alors, la vie terrestre est le seul paradis que les incroyants connaîtront. Mais c'est aussi le seul enfer que les croyants connaîtront. Je la répète. La vie terrestre est le seul paradis que les incroyants connaîtront. Mais c'est aussi le seul enfer que les croyants connaîtront. Là, je vous sens dans la réflexion. C'est puissant cette phrase, puissant. Et elle est tellement vraie. Un jour, mes amis, il y aura un jugement. Donc on peut souffrir. Je veux dire, en tant que croyant, on sait qu'il y a le paradis qui nous attend. Mais on sait aussi qu'il y aura un jugement. Donc on peut souffrir maintenant, on sait que ce qui nous est réservé, c'est le paradis, mais pas les incroyants. Les incroyants, eux, c'est le seul paradis qu'ils vivent. Donc on peut comprendre pourquoi ils misent tous sur cette terre. Et moi, je leur dis, mais si vous ne voulez pas placer votre confiance en Jésus, alors allez-y à fond. Allez-y à fond, mais sachez quand même que la Bible dit qu'il y aura un jugement à un moment donné, il faudra rendre des comptes. Dieu va siffler la fin du match. Il va faire un bilan, il va tirer un trait en bas de la page. Et il y aura des comptes à rendre sur chaque chose. Chaque chose. Et la Bible est très claire à ce niveau-là. Et je ne peux pas laisser passer. C'est le point d'application ici, c'est un jugement. Dieu veut attirer notre attention parce que ce jugement est réel. Vous savez que l'enfer, celui qui a le plus parlé d'amour dans le Nouveau Testament, c'est Jésus, mais celui qui a le plus parlé de l'enfer, c'est aussi Jésus. Et regardez ce qu'il dit, ce Jésus, dans l'Apocalypse. Et c'est binaire. Quand la Bible parle du jugement, elle met deux camps, clairement. C'est blanc ou noir, c'est brebis ou bouc. C'est croyant ou incroyant. Mais c'est binaire. Il n'y a pas un troisième territoire où on va pouvoir se racheter entre-temps. Un petit purgatoire, ça ferait du bien. Ben non, la Bible, elle est très claire là-dessus. Il n'y a pas de deuxième chance. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas une deuxième chance au tirage, là. Regardez ce que dit le texte. C'est l'apôtre Jean qui parle de la fin des temps et il dit, il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Donc là, c'est Jésus. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Ça, c'est la bonne nouvelle, les amis. C'est la bonne nouvelle. Si tu viens à Jésus, à la source de la vie, que tu viens puiser gratuitement, pas en payant, que tu veux acheter Dieu quelque part. Non, non, il dit ici que c'est gratuit. Si tu viens à cette eau, elle t'est offerte gratuitement. Alors, tu deviens un vainqueur, tu deviens fils de Dieu. C'est ce que dit le texte ici. Je serai ton Dieu et tu seras mon fils. Mais regardez la suite. Je disais que c'était binaire, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Waouh ! Moi, ça me fait froid dans le dos quand je lis ça. Mais je ne peux pas vous laisser sans ce texte. Vous avez vu ici que les incrédules sont au milieu des pires pécheurs de l'humanité. Des meurtriers, ils sont au milieu. En fait, les incrédules, c'est la plupart des gens qui sont autour de vous. Il n'y a pas que des meurtriers, mais ils sont dans le même package. Ils sont compris dans les gens qui iront dans les temps de feu. Les lâches, les incrédules, c'est ceux qui ne croient pas. Jean chapitre 16. Versets 8 et 9, je vous le lis. Et quand il sera venu, c'est Jésus qui parle du Consolateur, du Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement, de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Ce qui nous condamne fondamentalement, les amis, ce n'est pas le fait de mentir, le fait d'avoir fait des bêtises ou de ne pas avoir fait ce qu'on aurait dû faire. Fondamentalement, ce qui nous condamne, c'est le fait de ne pas placer notre confiance dans notre Créateur. C'est ce qu'il dit ici. On est jugé pour le péché, et le péché, c'est de ne pas croire en moi, pas croire en Jésus. C'est ce qui nous condamne définitivement et radicalement. Les incrédules. Donc vous voyez, ça me fait froid dans le dos, et en même temps, ça me rassure. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de mal à beaucoup de gens. Et un jour, il y aura une vraie justice qui sera établie. Il y aura un vrai jugement parfait. Et là, on ne pourra plus passer entre les mailles du filet. Ces gens qui auront fait du mal devront aussi payer. Et ça, ça rassure tous ceux qui sont dans la persécution, tous ceux qui souffrent pour le bien. Et j'espère que c'est votre cas, que vous ne souffrez pas pour le mal, mais que vous souffrez pour le bien. Alors ce matin, je vais vous poser deux questions. Et c'est pour deux publics différents. Si tu t'es pas encore positionné pour Jésus, je te pose la question. Est-ce que tes péchés sont couverts par le sang de Jésus? Est-ce que tes péchés sont couverts par le sang de Jésus? Deuxième question, sais-tu avec certitude où tu passeras l'éternité? Si tu as répondu non à une de ces deux questions ou non aux deux, alors je t'invite à venir me voir et discuter à la fin de ce message. C'est solennel ce que je te dis là. C'est ta vie qui est en jeu. Et la deuxième question, là, ça s'adresse plutôt aux chrétiens. J'ai aussi deux questions pour toi. Est-ce que tu obéis à Jésus partiellement, en choisissant ce qui te semble important, en définissant toi-même les règles? Ou bien, est-ce que tu obéis à Jésus par amour et reconnaissance envers ce qu'il a fait pour toi à la croix? Et je te dis la même chose. Si tu as répondu non à une de ces deux questions, viens à la fin de ce message. Et discutons ensemble.